sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Salut à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Donc pour rappel déjà, pour nous écrire c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Pour nous appeler toute la semaine c'est au 07 53 10 31 95. Et cette émission elle est un peu particulière parce qu'elle a été enregistrée quelques jours avant, avant le direct quoi. Et du coup on va pas vous donner le numéro du direct, mais par contre on a Serge à la technique.
Salut tout le monde.
On a Louis qui est avec nous.
Salut.
Et Alex qui vous salue aussi. On va rappeler que L'Envolée, c'est une émission qui se bat contre toutes les prisons, qui essaye de donner la parole aux prisonniers et aux prisonnières, de relayer cette parole un maximum à l'extérieur et d'être solidaire de toutes les luttes qui peuvent se passer, autant individuelles que collectives. Et voilà. Alors donc c'est une émission qui est un peu particulière parce qu'on est, on est censé être le 15 avril. Et que ça fait 5 jours qu'il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle. Nous, ça fait un petit temps quand même qu'on raconte à quel point cette élection, ça pue, mais comme généralement les élections présidentielles, et que celle-là particulièrement a donné parole à l'extrême droite. On ne sait pas c'est quoi le résultat. On ne va pas faire genre les pronostics ou quoi, mais on a hésité à enregistrer des débuts d'émissions différents.
Ouais, on était toujours dépités à chaque fois, quoi qu'il advienne. Voilà. Et ouais, on va pas parler de ce qui s'est passé et tout. Voilà. Mais on s'inquiète en fait des probables répressions qu'il va pouvoir y avoir parce que on sait que c'est toujours un moment où il y a de la répression et tout. Là, il y a 5 ans, c'était déjà le cas. Voilà, où ça s'est terminé en chasse à l'homme.
Dans Paris, en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que quel que soit le résultat, il va pas nous convenir. Et du coup, quel que soit le résultat, ben, on sera dans la rue pour dire, ben non, en fait, ça marche pas du tout ce qui a été choisi, parce que les candidats de base nous convenaient pas, quoi. Donc on espère évidemment qu'il y a le moins possible d'extrême droite possible, enfin le moins de candidats d'extrême droite au second tour, quoi. Mais vu que le panel commence à être assez large, entre le centre-droite semi-faf et les faf-faf, c'est vrai que bon, bah, il y a quand même un gros risque qu'il y ait un faf ou un semi-faf ou un truc comme ça qui soit au second tour. Et du coup, dans tous les cas, bah, ça va pas nous convenir. Le discours médiatique qui va accompagner ce deuxième tour, enfin l'entre-deux tours, va pas nous convenir. Et donc, il y a des appels à se rassembler à partir du 9 avril, donc depuis le samedi dernier. Il y a eu des appels déjà qui ont tourné depuis une semaine pour le 10. Et on espère qu'il y aura eu du monde dans la rue pour montrer qu'on n'était pas d'accord et que ça va continuer. Et parce que le 24 au soir, on ne sera sûrement pas d'accord non plus avec qui sera désigné pour nous gouverner pendant 5 ans. Parce qu'en fait, on n'a juste pas envie d'être gouverné pendant 5 ans par un homme ou une meuf de plus, quoi. Voilà. Et donc, bah, plein de force à toutes les personnes qui se sont fait arrêter cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera un direct. Et on reviendra peut-être plus précisément sur ce qui s'est passé. Nous, en fait, l'idée de cette émission, pourquoi on n'a pas fait une rediff, c'est qu'on voulait parler un peu du Covid. Pourquoi on veut parler du Covid ? C'est parce qu'en fait, si dehors, on est en train de nous déconfiner peu à peu, on dit peu à peu parce qu'en fait, tout n'est pas encore entièrement revenu. Et tu peux encore manger des 135 balles d'amende parce que tu n'as pas ton masque dans le métro, par exemple, ou dans le bus, et du coup ça c'est pas revenu, qu'on a quand même été habitué pendant 2 ans à avoir une attestation de ceci, un pass sanitaire de cela, un pass vaccinal de je sais pas quoi, et du coup on a quand même gardé, intériorisé des réflexes d'autocontrôle et de contrôle de la part de l'État. Ce qui est sûr, c'est que dans les lieux d'enfermement, le déconfinement il a jamais eu lieu, et donc on va profiter de cette émission pour revenir un peu sur les 2 dernières années. Et aussi pour vous lire 3 lettres ou des extraits de lettres de prisonniers qui parlent Covid et qui parlent de qu'est-ce que ça veut dire le Covid en tôle. On va commencer déjà par une lettre de l'infâme. L'infâme, on ne vous le présente plus, mais on va quand même le faire en vite fait pour les gens pour qui serait la première émission. L'infâme, c'est un prisonnier longue peine. C'est quelqu'un qui est en tôle depuis maintenant presque 19 ans, je crois. Qui est béton à 17 ans et qui ne sera pas libérable avant 2030, qui a fait le tour des quartiers d'isolement, qui a fait le tour des maisons centrales et particulièrement des quartiers d'isolement les plus durs. On parle souvent ici de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe, qui sont les 2 tôles les plus sécuritaires de France, qui ont vraiment pour mission de dégommer tout le monde et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de lutte et de briser des personnalités. Et l'infâme, il est passé par là, il a survécu à ça et il continue de se battre et de faire en sorte que sa parole, elle existe dehors. Et je vous renvoie vers des lettres qui ont été lues entre fin novembre et mi-décembre 2021 sur le site de l'Envolée, où il y a à la fois ce que ça veut dire un passage à Vendin, le stress que ça rapporte, et aussi ce que c'est la violence des matons de Vendin quand ils décident de s'acharner sur toi et de te torturer non plus comme la torture blanche des cuits, mais qu'ils décident cette fois-ci de te torturer physiquement en allant jusqu'à l'agression sexuelle et en te laissant quasiment pour mort sur place, quoi. Depuis, il a été transféré, il a repris du poil de la bête, comme on dit, quoi. Et franchement, Serge, tu m'as un petit peu intoxiqué avec tes expressions de merde, mais voilà. On t'entend pas quand tu parles au micro, je crois.
Ouais, avec mes expressions pourries, là, j'étais un peu intoxiqué. Ouais.
Voilà, mais on parle pas latin déjà.
C'est pas mal. Ouais. Mais ouais, et donc là, il nous a écrit quand même une très longue lettre dans laquelle il revient aussi un peu sur le début du Covid et tout. Et puis on va passer sûrement des rediffs des premières émissions qu'on a fait pendant le premier confinement, où on était passé en quotidienne. On terminera l'émission avec ça aussi. Pour se rappeler, et puis on va repartir un peu de toutes les révoltes qu'il y a eu et tout. Et là, on va pas.
Alors, pour l'infâme, c'est une courte lettre. Pour nous qui lisons, c'est une très longue lettre. Et on parle au conditionnel pour la fin de l'émission parce qu'on n'arrive jamais à tenir nos fils. Du coup, maintenant, on essaye d'être un peu prudent, quoi. Donc, on va commencer sa lettre. Elle est assez récente, elle date d'il y a 2 semaines. Et voilà. Coucou les amis. L'infâme est de retour, histoire de vous parler un peu du Covid et de comment tout se joue autour de ça en ces lieux oppressants déjà, de base, que sont les quartiers d'isolement. De mon point de vue, le sujet Covid est un peu spécial, je l'avoue. Car vu que je ne suis pas dans une configuration de détention ordinaire, entre guillemets, Étant donné que je suis encore et toujours « isolé ministériel », entre guillemets, les choses sont un peu cheloues. Mais ça n'en reste pas moins violent, révoltant et parfois même un non-sens. Mais bon, je vais comme à mon habitude vous parler sans langue de bois, même si ça pourrait déplaire à la paix. Mais ce détail-là, je m'en tape comme de ma première chemise, car la libre expression est un droit et un devoir même de l'être humain. Surtout en ces lieux où bien du monde ne nous considère nullement, nous et nos familles, tout comme pour nos amis ou autres, comme des êtres humains à part entière. Mais bon, je ne vous apprends rien en vous disant cela, n'est-ce pas ? Bref. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Covid. Toute une histoire, cette merde de Covid. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir, vous, à l'Envaux, pour celles et ceux qui me sont le plus proches, que depuis quelques mois, j'ai enfin des parloirs. Et là, le choc. Mon parloir s'est super bien passé. Mais côté Covid, le parloir, un désastre. On a fait avec, moi et mes frérots. Mais la consigne, ou plutôt devrais-je dire, l'ordre qui nous a été donné, c'est zéro contact. Pas même un check du poing, ou même du pied, ou alors du coude. Rien, nada. Et croyez-moi qu'après 15 ans, ou presque 15 ans sans parloir, de renouer avec le parloir, j'en étais ému. Mais ne pas pouvoir, dans mes bras, mes frérots leur faire la bise, une accolade, c'est d'une violence terrible. J'aurais voulu passer outre, et une fois les surveillants partis, j'aurais au moins fait un check aux frérots. Sauf que comme des puces à la recherche d'une fouf pas propre, on était surveillés de près. Et voilà que ça fait des allers-retours sans cesse, pour noter si on fait un écart ou pas. Alors que eux, bien évidemment, ça se faisait entre eux, des checks du poing. Mais nous, on nous refusait même ça. Moi, j'étais dos à la porte de la cuisine du parloir, et je voyais les frérots lever les yeux à chaque passage de Big Brother. Souriez, vous êtes matés. Au sens propre, comme au figuré. Une mise à l'amende inacceptable. Et bien que pas content de cette flagrante inhumanité qu'on subissait, on s'est plié malgré tout à ça. Car c'est ça, ok, c'est une chose. Le pire de cette mise à l'amende, c'est qu'on nous a bien signalé et signifié que si des personnes d'entre nous, que ce soit une initiative de mes visiteurs ou une initiative faite par moi, allaient au-delà de cette mise à l'amende annoncée, comme si on te disait genre « va te faire foutre » avec le sourire, et qu'il y avait le moindre contact, non seulement il serait mis fin à la visite, et le permis de visite serait non pas suspendu, mais tout simplement supprimé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne pouvait rien y faire. Alors la mort dans l'âme, on n'a pas joué au con. Mais c'était d'une violence psychologique extrême tout ça. Mais le principal, c'est que même avec tout ça, ça ne nous a pas empêché de profiter pleinement de ces 3 heures de parloir qu'on a eues ce jour-là.
Ah oui, aussi, les jours et heures de parloir, ça aussi avec le Covid. On se fait bien baiser de ce côté-là. Aussi. Moi, je suis détenu QMC, comme vous le savez.
Quartier Maison Centrale.
Alors, vu les mesures de Covid pour les parloirs, ici à Valence, tenez-vous bien, car l'annonce est aussi rude que révoltante. De base, sans prolongation de durée, etc., la durée d'un parloir, c'est 1h30, 3h avec une prolongation. Et le parloir, oui, je dis bien le, pas les, c'est juste le dimanche. Et quand je dis le dimanche, c'est pas tout le dimanche, mais une seule session de 1h30 s'il n'y a pas de prolongation. Soit le matin, soit l'après-midi. Wesh, t'as un jour, ça, ou une mise à l'amende, là. Même dans une prison aussi relou que Condé-sur-Sarthe, par exemple, les parloirs, c'est tout le week-end et les jours fériés. Et toutes les sessions. C'est-à-dire, si la famille, les amis, etc., viennent, ils peuvent faire 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, tout le week-end. Et si le jour qui précède ou succède un week-end, c'est la possibilité, session du matin et de l'après-midi, de faire 3 heures à chaque fois sur les 3 jours entiers. Ici, non. C'est juste le dimanche, soit le matin, soit l'après-midi, pour une seule session. Ici, Valence, c'est un CP, donc un centre pénitentiaire. Donc, il y a une maison d'arrêt. Eux, par contre, ils ont le droit à plusieurs jours de parloir. Pourquoi pas nous, détenus QMC ? Là encore, mystère et boule de gomme, au goût de révolte. Et pourtant, il n'y a personne côté central qui se bouge son cul pour s'insurger contre ça. Pas de blocage, pas de mouvement de contestation, pacifique ou non. Rien, zéro. Des zombies, les gens. Tous acceptent ça sans broncher. Suis-je le seul à ne pas trouver ça ni acceptable, ni moral ? J'en ai bien l'impression. Ils sont où les voyous qui montent au créneau pour réclamer ce qui nous est dû à minima ? Je sais pas. En tout cas, s'il y en a, ils sont pas ici et encore moins au QMC. Tu parles des voyous ? Des moutons qui se sont laissés abrutir par le système et par les miettes qu'on nous a données par de prétendues volontés de maintenir les liens familiaux. Par exemple, avec le téléphone où on nous donnait des clopinettes du genre « Estime-toi heureux qu'on te file 30 balles de téléphone gratis, appelle chez toi et ferme ta gueule ». Bah non, désolé, moi je ferme pas ma gueule. En plus, je vais vous montrer à quel point tout ça aussi, c'est une enculerie finie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, détenus, ou vous, à l'extérieur, qui, au détour d'une conversation avec un de vos proches et ou amis incarcérés, à la base, les mesures pour la téléphonie, combien on était des poules qui picorent comme si on était des assistés de l'État. Les mesures prises par les politiques, c'était à base de 40 euros par mois pour la téléphonie. Et d'un seul coup, 40 euros pour nous, les enfermés, les invisibles, les anonymes, parmi les anonymes. 40 euros, c'était bien trop. Et sans que personne de nous, détenus, ne sache vraiment comment ni par qui, tout cela s'est décidé. 40 euros par mois de téléphone, ça a duré 2 mois. Ensuite, c'est redescendu à 30. Qui a décidé de cela? Quand? Comment? Pourquoi? Alors que ces décisions de ces escrocs, qui nous, soi-disant gouvernent, avaient prévu à la base 40 euros par mois.
Après, peut-être suis-je trop con de penser ça. Mais vu que l'État, à la base, envoyait une enveloppe budget pour les opérateurs de l'époque, Sagi et Telio, que ces opérateurs ensuite répartissaient automatiquement pour chaque prison, pour chaque déterminé, la somme liée à la téléphonie, je pense qu'il y en a qui se sont gavés sur nous. Car on est combien de détenus en France? 74, 75, 76 000? Plus ou moins, je ne sais pas trop. Mais à 10 euros par tête, chaque mois, il y a un champion bien avisé qui se foutait alors 10 euros, multiplié par le nombre de détenus en France, dans la poche, ça veut dire, non? Car de 40 euros par mois, on est passé à 30 euros par mois. Et même si ça a été un acte, par un ou des politiques, qu'on passait de 40 euros par mois à 30 euros par mois, quel détenu en a été informé du pourquoi, du comment, etc.? Pas moi en tout cas. Ce qui fait que même quand les 30 euros par mois ont été actés, eh bien, mesdames, messieurs, avant que ce soit acté, on s'est bien fait enfler. Par des escrocs en col blanc qui, pendant X période, se sont mis 10 euros multipliés par le nombre de détenus dans la poche. Et c'est vous, mesdames et messieurs du dehors, avec vos impôts, avec toutes les taxes que vous donnez à l'État au quotidien, c'est votre argent, pas le nôtre, qui pour nous en prison, sommes rarement imposables, que ces escrocs, pendant une X période, se sont partagés une somme à 6 chiffres, sur votre dos comme sur le nôtre. C'est-à-dire presque 750 000 d'euros par mois. Et pourtant, j'ai jamais entendu dire que ces clampins avaient été inquiétés par la justice. Et pourquoi? Tout simplement parce que, hormis certains détenus et certaines personnes qui luttent pour nous au dehors, personne n'en a rien à foutre que ces gens se gavent tant sur votre dos que sur le nôtre. D'ailleurs, ce détail, vous-même au dehors, le saviez-vous? En étiez-vous informé ou conscient qu'on se faisait tous baiser de la sorte? Libre à chacun de faire comme ces trois singes. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, et je parle pas. Mais moi, je ne suis pas un cygne ou un singe. Ni je ferme ma gueule, ni je deviens sourd quand ça se complique, ni je ferme les yeux sur ce qu'on nous fait. Car ce qu'on nous fait à nous, détenus, on vous le fait à vous aussi au dehors. Vous qui n'avez aucun lien, quel qu'il soit, avec le milieu pénitentiaire. Car c'est aussi, et surtout à vous que je m'adresse. Car nos proches, ou ceux qui luttent à nos côtés, eux savent, et font ce qu'ils peuvent pour nous aider. Que ce soit en faisant entendre nos voix, à nous les oppressés du système carcéral qui broie l'humain et leur famille, mais que vous le vouliez ou non, vous qui n'avez aucun lien, direct ou indirect, avec un détenu ou le milieu carcéral, vous êtes, vous aussi, tout autant impacté que nous. Et le milieu carcéral
est impliqué aussi dans tout cela.
Et bien qu'il y ait des gens formidables, comme celles et ceux qui forment l'Envolée, ou qui y sont liés et agissent au nom de l'Envolée, comme ils le peuvent, bien qu'il y ait d'autres assos qui luttent, tout comme l'Envol, pour nous détenus, retenus, que ce soit en prison ou dans tous les lieux où on enferme, à cela, force et courage aux femmes et aux hommes, enfermés entre autres dans ces maudits CRA, centres de rétention administratifs. Ou que ce soit aussi nos proches, certes, tout ce monde, ça en fait des gens qui luttent pour nous, mais on est encore trop peu nombreux.
Toi qui es derrière ton bureau, à bosser 24 heures sur 24 pour un salaire qui ne reflète même pas tes compétences. Toi, la ménagère moyenne qui, au détour d'une salle d'attente, lit mes mots, comme ça, par hasard. Toi, le privilégié qui n'a jamais dû se battre dans la vie pour avoir un toit sur la tête, toujours ton ventre rempli et tes poches pleines d'oseille. À toi aussi la prostituée qui, par la fatalité de la vie, monnaie ton corps pour survivre. À toi le PD ou la lesbienne qui se fait insulter, brimer, agresser parce que t'as pas la même sexualité que ton ou tes assaillants. À toi le vieux 68ard qui a vécu dans la lutte sociale de l'époque mais qui n'a plus envie de se battre parce que tu te retrouves plus toi-même dans cette vie si compliquée. À toi le black, le blanc, le rebeu, le jeune comme on vous appelle parfois. Et je pourrais aussi continuer en disant à toi, le juif, le musulman, le catholique, à vous toutes et tous, sentez-vous concernés. Et vous aussi, prenez position, car on a tous et toutes besoin de vous aussi. Vous comme moi, on est tous des êtres humains avant tout. pas d'a priori sur la sexualité, la couleur de peau, la condition sociale ou je ne sais quelle autre connerie qui nous font, nous les êtres humains, parfois se déchirer les uns les autres. Que tu sois homo, juif, pute, clandé ou clodo, PDG d'entreprise ou autre, moi, j'aime tout le monde. J'ai aucune barrière sur l'humain. La seule barrière que j'ai, peu importe qui j'ai en face de moi, c'est que je suis allergique aux cons et aux connes et à celui et celle qui veut m'oppresser plus que de raison. Et comme je disais, il y a un petit temps de ça, vous, mesdames, messieurs, si c'était vous qui subissiez ce genre de choses, l'accepteriez-vous ? Et si vous ne l'accepteriez pas, si vous étiez à ma place, pourquoi ne l'accepteriez-vous pas, d'ores et déjà en l'état actuel des choses ? Dites non et insurgez-vous selon ce que vous pouvez. Soutenez les personnes qui subissent ce broyage psychologique et physique. Pourquoi acceptez-vous, ou même pourquoi vous préférez fermer les yeux, les oreilles et la bouche alors que ça se passe ici, en France ? Et celles et ceux qui liront ceci, vous penserez peut-être le jour où vous verrez vous ferez agresser par un délinquant qui récidive, ou un cambrioleur qui récidive, ou un fou qui jadis s'appelait Michel, mais qui, parce qu'il s'est ridiculisé, a tiré dans une foule au nom de la religion. Mais, à mon avis, ai-je fait ma part citoyenne en soutenant comme je peux pour faire avancer les conditions des détenus ? Car si j'avais été là pour aider du mieux possible, peut-être que celui qui cambriole ou qui vend de la cam à mon gamin que j'ai dû à 14 ans envoyé en désintox, aurait trouvé son chemin dans la droiture. Au lieu de ça, il a subi, s'est endurci de la plus mauvaise des façons, et j'ai, d'un sens, contribué à cela en ne faisant rien, en me complaisant dans mon petit train de vie, parce que je ne me sentais pas concerné. Voyez loin, parce que ce que je vous dis là, ce sont de vraies réalités. Ce n'est pas juste des élucubrations d'un mec qui aurait perdu la tête. Enfin, bref.
Autre sujet, les amis. Par exemple, les salons ou IVF. Par exemple, entre le jour où j'ai eu mon premier parloir et mon premier salon, il ne s'est passé qu'un mois. Cool. Mais là où il y a du non-sens à toutes ces mesures de pas de contact, sinon le permis il saute, et ah oui, je précise, au parloir à ce moment-là, les mesures sont toujours les mêmes. S'il y a le contact, le permis, il saute direct. Donc j'ai mon salon. Ça dure 6 heures, toute la session du matin jusqu'au soir, entre guillemets, 10h30, 16h30, dans un genre d'appart aménagé. Là, j'ai pu embrasser mes frérots, leur faire de grosses accolades, etc. Mes questions. Pourquoi alors nous menacer pour les parloirs de nous faire sauter le permis, vu qu'au salon, on pouvait faire ce qu'on nous interdit au parloir ? Bah, tout simplement, parce que ces mesures, en ce qui concerne les parloirs, c'est juste pour nous oppresser sans que rien ne le justifie. Normalement, à l'issue d'un UVF ou d'un salon, il devrait y avoir une période, je sais même pas combien, car même ici, ils savent pas tellement ça, ça change tout le temps, de confinement obligatoire. Une fois le salon ou l'UVF fait. Moi, je savais que les frérots n'avaient pas le Covid. Donc je ne pouvais pas l'avoir à l'issue du salon ou même de mon premier UVF de 24 heures que j'ai eu avec eux dernièrement. J'ai demandé juste pour voir ce qu'on me répondrait si je pouvais, comme je le fais souvent, aller en salle de bibliothèque pour écrire mes courriers. « Prépare-toi, on arrive dans 5 minutes », m'a-t-on dit, alors que tous savaient que je rentrais du salon et ou de l'UVF la veille. Au bout de 3 minutes, je les appelle et je les bluffe, en leur disant « Tout compte fait, je dois appeler chez moi, je reste en cellule ». En fait, je me suis auto-confiné moi-même 10 jours pour être sûr. Car eux auraient pu me le refiler sur le trajet retour du salon ou de l'UVF. Un détenu dont je tairai le nom, car aucune utilité de sortir son blaze, a eu le Covid ici, au QI. Et pourtant, il n'a pas eu le Covid lors d'un salon, d'un UVF ou d'un parloir. Au QI, nos contacts se mesurent la plupart du temps en surveillant. Il a des mesures de gestion équipées, donc il ouvre peu sa cellule. Donc il est très facile de bien comprendre ce que je veux dire. Et ceux pour qui ce que je dis n'est pas clair, il a eu des contacts qu'avec les surveillants, et personne d'autre. Donc, c'est un surveillant qui lui a refilé le Covid. Et aucun détenu n'a été informé que l'un d'entre nous l'avait chopé à cause d'un surveillant. Même le détenu lui-même ne le disait pas. Et c'est moi, en passant devant sa cellule, qui ai vu sur sa porte un « Attention Covid » écrit en majuscule. Ou un truc du genre, avec dans la coursive une poubelle jaune, façon « poubelle pour les virus », entre guillemets. C'était pour jeter les masques usagés. Et vu qu'à cette époque, la parano de quelqu'un qui risque de choper le Covid était tellement forte que si j'étais le seul à continuer à vivre, entre guillemets, en allant à la bibliothèque. Que j'étais le seul, pardon. En somme, si je ne vais pas en bibliothèque ce jour-là, personne n'aurait vu, su ou appris qu'un mec avait le Covid et que c'était un surveillant qui lui a refilé. Quelle honte. Ils nous mettent en danger. Mais par contre, ils nous rappellent sans cesse qu'il faut respecter les gestes barrières. Alors que ça contamine sans vergogne, ni souci de conscience, les détenus, parce que eux n'ont pas respecté les gestes barrières. Et ça aurait pu aller plus loin. Et peut-être même, cela a-t-il été plus loin ? Qui sait ? Parce qu'on ne sait même pas si un surveillant de QI qui lui a donné cette merde de Covid ou c'est un ELAC. car c'est les ELAC qui font les mouvements infirmerie, par exemple, quand on va à l'infirmerie, ou dès qu'on sort du bâtiment du QI pour se déplacer hors QI, et ensuite y revenir en cellule. Donc non seulement ça a infecté un détenu, mais que dire de cet inconscient d'agent qui, de ce fait, a mis aussi ses collègues à lui en danger, peut-être même aussi ses proches, ou peut-être même les a-t-il tous infectés, comme il a infecté ce détenu. À cette période, ce détenu n'avait pas de parloir, de salon ou du VF prévu. Imaginez si ça avait été le cas, qu'il a eu une visite avant même d'avoir été dépisté positif. Ce mec a des gamins, et s'il avait infecté ses gamins sans le savoir s'il avait eu parloir ? C'est-à-dire que l'inconscience d'un seul, surveillant de son état, vous imaginez que, un peu, comment tout ça aurait pu mal tourner ? Et si ça se trouve, ça a peut-être mal tourné. Enfin bref, s'il a envie de mettre sa vie et sa santé en danger, mal lui en prenne. Mais qu'il ne nous infecte pas. Et là, depuis 24 heures, plus personne ne met de masque. Est-ce général ou généralisé ? Mystère et boule de gomme. Au QI, personne ne nous a informé de quoi que ce soit sur à ce sujet. Alors, les Castex, Véran, Macron et compagnie, au lieu de filer des chèques carburant et que ça foute la pagaille, au lieu de faire profil bas, Olivier, et de pas remplir ton rôle de ministre, et toi, Manu, au lieu de te la raconter comme un Superman que t'es pas, en voulant donner des leçons à ce fou de Poutine, commencez, messieurs, par vous occuper des vrais problèmes qu'il y a dans votre pays actuellement. Votre si beau pays qui est aussi le mien, et au-delà du problème du Covid qui nous impacte nous, nos familles et nos proches, nos amis, etc., en termes de personnes incarcérées ou de leurs proches et amis. Regardez d'un peu plus près tout ce qui se passe dans les prisons. Car de vos prisons, on tombe malade, on crève, que ce soit brutalement ou à petit feu. Qui n'est pas... Hop là.
Car dans vos prisons, on tombe malade, on crève, que ce soit brutalement ou à petit feu, qui n'en est pas moins tout aussi brutal que de mourir d'une dizaine de coups de couteau dans une cour de promenade. Parce que quand il y a des détenus qui, de par leurs affaires, sont des détenus entre guillemets médiatiques et médiatisés, là, vous commencez à bouger. Et même à faire les canards en transférant les gens là où ils voulaient être pour être proches des leurs. Chose que jusque-là, vous leur avez refusé. Et tout ça, à quel titre, de quel droit ? Celui de l'apaisement des esprits échauffés à blanc ? Et nous, alors ? Nous, les invisibles, sauf quand on fait une prise d'otage ou qu'on agresse un surveillant, vous n'avez rien à foutre de nous. Et vous croyez que je vais voter pour des gens comme vous, qui n'êtes même pas capable de faire la loi dans votre propre pays, dans mon si beau pays qu'est la France ? Pire, vous voulez donner des leçons à des fous, pensant que vous êtes dans vos rôles respectifs. Commencez par voir les réalités de ce qui se passe dans les geôles françaises, dans les CRA, et tous ces lieux où on enferme et tue de multiples façons, où l'on broie les gens, des familles entières, et faites changer les choses. Alors là, peut-être, je dis bien peut-être, voterai-je un jour, si un de vous tenait de tels engagements. Car en l'état actuel des choses, pour moi, vous n'êtes qu'un ramassis de menteurs, d'incompétents, incapables de tenir vos engagements. Et comme on dit chez moi, la parole fait homme. Et si t'as pas de parole, quand tu t'engages, tu vaux rien. Et t'as pas le droit au respect, ni même de me donner des leçons. À bon entendeur. Donc les amis, voici ce que je peux vous dire sur le Covid. Avec mes yeux, à moi, avec ma réalité actuelle de ce que je vis ici, à Valence, à ce sujet. Même si je sais que, oups, je me suis parfois quelque peu dispersé.
Comme d'hab, pour tout ce qui sera publiable, je vous fais totalement confiance sur ce que vous sélectionnez de cet écrit, assez acerbe, je le sais. Mais si par mes mots, vous pouvez éventuellement vous voir censuré au niveau de l'Envo Journal, ne le publiez pas et mettez-le en ligne sur le site de l'Envo, cet écrit. Car lire mes mots, ça peut être pour beaucoup peut-être intéressant, positif, etc. Mais il y a tout un tas d'hommes et de femmes, détenus ou non, qui attendent chaque sortie du nouveau numéro de l'Envo Journal, numéro après numéro. Donc que mes mots ne les privent pas de ça. Et c'est aussi pour moi tout aussi important qu'il est important de faire entendre ma voix. Que ce soit Serge Letellier, si, Sylvia la Sœurette, Arthur Alex les frérots, Christa la Frangine, Jojo le Marseillais, Nani la Lyonne, Desbomettes, ainsi que toutes celles et ceux que je nomme pas et qui me soutiennent activement et ou dans l'ombre, ainsi qu'à ma tante et mon oncle qui sont là pour moi. Merci à vous pour votre soutien, votre cœur et votre détermination. Courage aussi, tout spécialement à Nani la Lyonne, incarcérée actuellement au Beaumet. Courage à toi, t'es bientôt au bout, donc courage. Merci à vous tous et toutes d'être là pour moi, encore et toujours. Enfin, à toutes les femmes, hommes, minots, à toutes celles et ceux enfermés ailleurs qu'en prison, dans ces lieux où on enferme et on prive les humains de liberté, ici en France. À vous toutes et tous, gardez le moral et l'espoir de jours meilleurs. Force, courage et détermination. Restez unis et solidaires, car le combat, c'est nous contre eux et pas nous contre nous. Il n'y a pas d'arrangement et il n'y en aura jamais là-dessus. Force à tous. Et bien que tous le savent, ces mots de courage ne sont pas adressés aux violeurs, aux balances, aux corrompus, aux sales gens qui, tout comme moi, sont incarcérés. Hommes comme femmes de ce genre-là. Pour vous, mon majeur dressé. Et pour tous les autres, les vaillants, le poing en l'air, dressé haut et avec conviction, signe de mon soutien à vous toutes et tous. Courage, l'infâme. Et pour pas changer, moi c'est l'infâme. Et bah...
Cimer, je crois que c'est la première fois qu'on lit une lettre de toi en entier.
Faut dire qu'elle faisait 18 pages à l'écrit quand même. Et du coup, désolé si des fois on a un tout petit peu bugué sur les mots, en vrai c'était pas évident. Mais par contre, en fait, un gros cimer pour avoir fait cette lettre parce qu'elle retrace énormément de choses et qu'elle dit beaucoup. Je sais pas si on veut passer de la musique avant d'y répondre.
Et bah donc on va passer un petit coup de musique.
Ok, donc là on parle.
Non.
Ah. Je vais la mettre comme ça. Elle
Saint-Ouen ou avec une go en train de marquer un point. Moi j'ai les murs de mon monde à tenir. Et comme je ne vais pas rajeunir, comprends que j'envisage mon avenir. Toute ma vie tient dans mon crâne et deux sacs de sport, pas plus. Pourtant j'ai des bagages et même un bac plus. On me demande si ça va et je réponds oui, car j'ai la fierté des braves d'avoir su construire avec des gravats. Pour fuir la routine il aurait pu y avoir le travail, mais pour ce qu'on y gagne mieux vaut être riche et polygame. Rien ne m'appartient, même pas mon disque, non, ni les mètres carrés que j'habite dans l'arrondissement. Je suis riche d'autre chose et peut-être bientôt ex-pauvre, car riche d'une prose qui explose. Je suis bien dans mon coin avec mon joint, mon stylo et mon flash. Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Tout ce que je possède est en moi. Je n'ai reçu pour avance que celle de femmes superbes. On veut mener la grande vie, mais y'a des illusions qu'on a dû perdre. Donc à défaut que ce soit aisément, on cherche à vivre intensément. On n'attend pas de toucher le fond pour remuer ses membres, car tous les scénarios sont possibles. Moi j'avance doucement, mais pas parce que mes chevilles ont grossi. Je suis dans mes dépenses au moindre frais, comme plein de refrains. Je pars devant les agences de voyage et les points de retrait, avant que ne défile mon générique de fin. Et les noms de ceux qui ont un rôle de loin ou de près. Je sais qu'ailleurs y'a pire que les coins où je crèche. Mais que partout c'est dead quand tu n'as rien ou presque. Mais que tu possèdes un building ou que tu te battes pour sortir de l'ombre, il ne reste sur nos tombes qu'un nom et deux nombres. Les modes de vie qu'abrite ce monde sont sans rapport. La liberté, l'égalité, c'est dans la mort. Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Mais est-ce qu'il ne nous reste que la loterie, les sports équestres, la Ligue 1 ou le business pour remplir ses caisses? On a une mentalité si culturellement urbaine qu'on oublie que les vraies richesses sont naturelles ou humaines. Normal, on s'y perd, avoir autant d'exemples d'opulence obscène. Au moins je sais que ce n'est pas pour mon blé que mes proches m'aiment. Nos vies ne sont pas telles qu'on les voyait. À la longue, on n'y comprend plus rien, comme si on nous parlait sans les voyelles. Rien ne m'appartient, mais rien n'est plus cher à mes yeux que les gens que j'aime, ils sont ceux que j'ai de plus précieux. Ici on perd souvent de vue ce qui est important, la famille, l'accomplissement de soi, être bien portant. Mais on le sait, le fric fait la différence. Vraiment, faites-en, vivant sainement et en profitant pleinement. Rien ne nous appartient ici. Mon emploi du temps est mon seul emploi. Rien ne nous appartient ici. Tout ce que je possède est en moi. Rien ne nous appartient ici. Même pas les quelques billets qu'on fait dans le mois. Rien ne nous appartient ici.
Rien ne nous appartient.
Tout ce que je possède est en moi.
Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Tout ce que je possède est en moi. Tout ce que je possède est en moi. Tout ce que je possède est en moi.
Vous êtes de retour toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Donc pour rappel, pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95, parce que cette émission elle est enregistrée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous rejoindre, pour filer un coup de main, etc. Ou pour s'abonner, tant à l'extérieur pour payer les abonnements et permettre de diffuser la parole un maximum, qu'à l'intérieur où les abonnements ils sont gratuits. Et donc là, on vient de lire une très longue lettre de l'infâme qui revient sur beaucoup de choses. Donc déjà, peut-être pour commencer un tout petit peu, l'infâme, en fait, là, dans cette lettre, il revient d'abord sur la question des parlus, quoi. Des parlus depuis le Covid et depuis qu'ils ont repris. Je ne sais pas si on aura le temps de vous refaire un historique de la lutte, de ce qui s'est passé, enfin de la lutte et de comment ça a été géré le Covid en tôle depuis 2 ans. Mais il y a les 2 premiers mois, du 17 mars 2017 jusqu'à mi-avril 2020, pardon. Jusqu'à mi-avril 2020, où en fait les parloirs ils sont juste suspendus, les 3/4 des activités aussi. Il y a des mouvements de révolte et de lutte dans 1/4 des tôles, bref tout ça. Et après on arrive en avril 2020 où les parloirs ils sont réouverts. Sauf qu'ils ne sont pas réouverts comme avant. Dans un premier temps, c'est... je sais pas si le masque était déjà le masque est déjà obligatoire.
Je pense pas que ce soit obligatoire à cette époque-là parce qu'il y en a pas de masque.
Voilà, et donc on nous dit qu'en fait ça sert à rien. Mais du coup par contre, il y a le plexiglas, en fait ce qui est un parloir disciplinaire quoi, un espèce d'hygiophone, donc avec une grande vitre qui fait que tu peux pas t'entendre très bien. Et quand ils ont pas encore installé les hygiophones, il y a interdiction de contact dans tous les cas. Après le masque devient obligatoire dedans. Ils précisent pas, mais quand ça devient obligatoire dehors, pardon. Mais quand ça devient obligatoire dehors, évidemment, ça devient obligatoire en tôle. Et donc, on se retrouve à faire des parlus où tu vas voir ton pote, t'es masqué, et même quand il n'y a pas le truc hygiophone, t'es masqué donc tu t'entends pas, ou tu galères à t'entendre, tu vois même pas la tête en entier de ton pote, quoi. Et t'as interdiction de tout contact. Et il le raconte très bien. C'est-à-dire, on te met la pression à toi en tant que visiteur de l'extérieur en disant « Fais bélec, tu touches ton pote, tu touches ton proche, ton parloir il saute. » Et on dit à la personne aussi, quoi qu'il arrive, au moindre contact, on vient, on vous fait sauter le parlu. Et en fait, pour les personnes qui ont déjà fait des parlus, je ne sais pas comment dire, il y a toujours eu des allers-retours de matons qui viennent regarder à travers les vitres pour checker, pour foutre un peu la pression, te rappeler que ok, c'est un espace d'intimité, mais que tu es certainement très surveillé et que très certainement, tu ne dois pas en profiter jusqu'au bout. Mais moi, je n'ai jamais vu autant d'allers-retours de matons dans ma vie. Par exemple, qu'à Fresnes, juste après le premier confinement, quoi, où ils passent leur temps, genre toutes les 30 secondes, tu vois la tête d'un maton de chaque côté du box qui est là pour guetter que tu t'es pas checké, quoi. Et c'est vraiment le côté vicieux du keuf ou du maton, en fait, qu'on retrouve hein, à l'extérieur. Les keufs qui tournent dans la rue et qui te voient avec le masque un peu baissé à cette période-là et qui bim ta ligne et te mettent 135 € d'amende, quoi. Évidemment, en fonction de qui t'es, hein, parce que c'était dans le 16e, on dit non, remonte ton masque, s'il vous plaît, monsieur. Enfin, voilà. Et du coup, tu retrouves ce côté-là. Et en fait, donc, tu vas voir ton pote. Déjà, quand tu vas en parloir, c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. Parce que tu es là, tu dois donner la patate. Même si tu vas pas bien, toi, dans ta vie, on s'opère. Même si l'autre va pas bien, celui qui est en tôle, eh ben, c'est pareil. Il va te dire t'inquiète, tout va. Tu vas essayer de parler de sujets qui filent la patate les uns aux autres. Tu as envie de te donner l'envie de te revoir. Un parloir en maison d'arrêt, ça peut durer 45 minutes. Enfin, c'est hyper court. 1 heure et demie pour un détenu longue peine. En fait, c'est R, quoi. On parle de la vie de gens, quoi. Et en fait, là, tu vois même pas la personne, tu peux même pas la checker, tu peux même pas lui faire un câlin, quoi. Et donc, t'as aucune pause dans le parloir où c'est un petit moment un peu intime où tu te donnes vraiment la force, quoi. Comme tu fais avec un pote que t'as pas vu depuis longtemps ou quoi, quand t'es à l'extérieur, quoi. Enfin, un truc de base qui est juste de tu prends les gens dans tes bras. Enfin, et là, tu sors de 2 mois de confinement, tu sais que ton pote il a vu personne pendant 2 mois. Lui, en plus, l'infâme, il est en quartier d'isolement. Donc, c'est ce qu'il raconte très bien sa lettre. Hein. Quand il dit il a vu personne, c'est-à-dire qu'il n'a vu que des matons pendant 15 ans quasiment, quoi. Il connaît plein de gens de la voie, de machin, des gens qu'il a croisés en bout de couloir. Mais sinon, il ne voit au quotidien que des matons. Et c'est très récent que lui, par exemple, il soit plus en gestion menottée et avec des élacs. Donc, quand on dit élac, c'est une espèce de baqueux cagoulé de la tôle, quoi, où c'est des matons qui se portent volontaires et qui viennent et qui l'accompagnent à toutes ses sorties, jusqu'au parlu, etc. Ils sont cagoulés ou pas, mais généralement, ils le sont. Ils sont en tenue anti-émeute. Ils ont des armes plus vénères que le maton lambda, quoi. Et c'est des espèces de cow-boys, quoi. Bah, enfin, comme pour les gens dehors, comme quand tu vois la BAC, quoi. Enfin, et ça veut dire que lui, c'est tout ce qu'il voit. Et pendant ces 2 mois-là, particulièrement, tout ce qu'il va voir, ça va être des matons, quoi. Et donc, c'est vraiment violent. Enfin, tu vois, il le raconte très bien, 15 ans sans parlu. Tu croises enfin des gens à qui t'as écrit pendant 3-4 ans, qui sont tes potes, nan, nan, nan. Et et bah tu peux pas les checker, tu peux pas, t'oses pas baisser ton masque parce qu'en fait ça a déjà été dur de gratter un parloir. Tu sors de Vendin où on t'a torturé, etc. Et du coup tu te retrouves à plier face à la paix. Et ça c'est hyper violent quoi, parce que on n'a pas envie en fait à ce moment-là, tu vois, t'es en parlu, t'as pas envie, t'as juste envie de dire mais allez tous manger vos morts quoi. Enfin moi je fais un câlin à mon pote si j'ai envie quoi. Et en fait tu te retrouves à le faire parce que tu sais que l'enjeu il est au-delà de cette règle à la con qu'on est en train de te fixer. Et c'est hyper dur cette espèce de... En fait c'est comme quand des fois on parle du bracelet électronique où tu deviens ton propre maton. Bah là c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, je sais pas, j'ai fait des parloirs en maison d'arrêt où on se faisait quand même un check et tout en scred. Mais l'enjeu, il n'était pas le même parce que le pote, je savais qu'il sortait dans un an et demi, dans un an, que si moi, on sautait mon parloir, il y en avait trois autres qui l'avaient. Enfin, en fait, pour le cas de l'infâme, lui, il sait qu'il a deux parloirs avec deux personnes. Que du coup, si ses parloirs, ils sautent, il n'en aura juste plus. Et donc, en fait, c'est ce moment où on arrive à ce que tu intériorises des règles d'autocontrôle. Et c'est un truc qu'on a beaucoup vécu dehors, quoi. On parlait en début d'émission des espèces de papiers d'attestation. Au début tout le monde était scandalisé, mais il y avait tellement de contrôle de keuf que tout le monde l'a fait. Et du coup quand le pass vaccinal il est arrivé, là où le pass sanitaire, mais c'était normal déjà pour les gens de sortir un papier et de le montrer à n'importe quel connard qui vient te le demander quoi. Et au début cette personne là c'était que les keufs, puis après c'est devenu les gens des bars, les gens du train, c'est devenu un peu tout le monde. Et donc maintenant c'est normal qu'on puisse te demander un papier en plus de ta pièce d'identité, c'est des trucs intériorisés quoi.
Puis là, sur ce contact physique aussi, il y a des enfants qui sont nés. Voilà, donc il y a des pères, parce que souvent c'est ça, qui n'ont pas pu toucher leur enfant au début quand ils sont arrivés. Il y a des enfants qui étaient plus jeunes, mais donc qui ont été interdits de revoir leur famille, enfin leurs parents et leurs pères bien souvent. Voilà. Et après, derrière, on leur interdit. Au moment où ils retournent, donc voilà quoi, on t'a privé de voir ton daron pendant plus de 3 mois, si mes souvenirs sont bons. Et après derrière, on t'empêche que t'aies un seul contact physique. Voilà. Et c'est d'une violence inouïe en fait. Enfin, voilà. Et ça c'était la période où en France on se déconfinait. Donc en fait tout allait bien. Voilà, il n'y avait pas de soucis parce que en fait les gens, ça y est, étaient heureux de pouvoir se déconfiner après avoir passé un peu de temps bloqué chez eux et tout, et donc plus personne ne regardait ce qui se passait à cet endroit là mais plus du tout personne. Et nous, on a vraiment essayé vraiment de relayer au maximum ce qui était en train de se passer, parce que on se retrouvait avec des gens qui disaient non, en fait viens pas en parler parce que c'est trop affreux. Voilà, il y avait des proches qui étaient flippés de ramener le Covid à l'intérieur à leurs proches, aux personnes enfermées, et donc qui se privaient d'aller faire des parloirs.
Voilà. Ça se comprend, en fait. C'est-à-dire que oui. Le truc, c'est que nous, dehors, en dehors des gens qui taffent avec des uniformes bizarres, on n'est pas totalement débiles. C'est-à-dire que quand on pense qu'on est malade, eh ben, on ne va pas en parloir, alors qu'on sait que le système de soins, c'est de la merde à l'intérieur des tôles. Quand on sait que ton pote, il a des problèmes de santé de base, eh ben, tu ne vas pas le voir en parlu. De la même manière que les gens dehors, eh ben, ils n'allaient pas voir leurs grands-parents s'ils avaient fait la teuf pendant 3 jours avant et que tu attendais une période pour vérifier que tu n'avais pas le Covid, etc. Enfin, nous, on n'est pas entièrement débiles. Et que si quand tu prenais ce risque-là, c'est que ton proche à l'intérieur, il était conscient et qu'il te disait « moi, j'en ai rien à foutre » et que tu estimais que tu pouvais t'en passer, quoi. De la même manière qu'il y a des grands-parents qui étaient en mode bah, « moi, j'en ai rien à foutre. On m'a déjà confiné 2 mois, et bah, je ne vais pas rester confiné plus longtemps par peur de mourir, puisque je vais peut-être mourir pendant le confinement. » Enfin, du coup, en fait, c'était déjà des démarches. La responsabilité des proches, elle est là. Par contre, l'irresponsabilité des matons, pendant tout le confinement et pendant 2 ans, on l'a vu, c'est-à-dire, c'est très bien. En fait, c'est exactement ce qu'il raconte avec le maton qui contamine quelqu'un en QI. C'est ce qui se passe depuis 2 ans, c'est-à-dire que toutes ces tôles où on nous parle de clusters, c'est parce qu'il y a des clusters entre matons, en fait, à la base, et que tout d'un coup, on va tester les prisonniers. On fait « ah ouais, merde, le virus, il a circulé dans la tôle ». Bah évidemment, en fait, puisque c'est les matons qui vont le trimballer partout, parce que c'est eux qui portent mal le masque, en général, quand ils sont pas face aux prisonniers, qu'on sait que ce truc-là, ça peut rester sur plein d'endroits. En fait, c'est eux le problème. Et pendant le Covid, il y a eu le moment où ils font leur teuf à la santé, là, dans le gymnase ou je sais pas quoi. Enfin, de la même manière que les keufs, pendant le premier confinement, ils nous contrôlaient dans la rue, ils nous palpaient avec les mêmes gants pour tout le monde, alors que t'es en période de pandémie et qu'on savait pas comment la maladie elle se transmettait, par exemple. C'est la même chose. C'est-à-dire que les matons à l'intérieur, je sais pas combien de lettres on a relayé ici, de gens qui expliquent que, en fait, c'est avec leurs gants en cuir qu'ils te palpent. que c'est pas avec les gants en latex là, ou je sais pas quoi, d'usage qui sont censés changer entre chaque palpation qu'ils le font, qu'ils en ont strictement rien à foutre de rendre des gens malades, et que si après la personne elle est malade, ils vont dire non, t'es un mytho, je vais pas t'envoyer au médical parce qu'en fait tu fais sûrement la victime pour pouvoir t'évader quoi. Enfin, et du coup c'est toute cette logique là où on sait très bien que les gens qui sont responsables à cet endroit là de la diffusion du virus, c'est principalement les matons. Et juste pour dire aussi, quand tu parlais des enfants tout à l'heure, il y a eu un moment genre dégueulasse où l'administration pénitentiaire, elle a commencé à dire OK pour un enfant, mais pas,
pour,
deux.
Pour le deuxième. Ouais.
Voilà. Et du coup, il y a des MIFA et souvent des darons qui ont dû choisir l'enfant avec lequel ils allaient en parloir. Donc, ils n'ont pas vu leur daron depuis 2 mois. Le parloir, souvent, il était plus court juste à la sortie du confinement. Des fois, il y avait le plexiglas dont on parlait, etc. Et tu dois choisir l'enfant et tu dois aller expliquer à l'autre enfant, genre, bah non, en fait, désolé, il y a je ne sais quelle personne dans la bureaucratie de l'administration pénitentiaire qui a décidé que ce serait un enfant. Voilà. Mais par contre, on laisse les écoles ouvertes. Par contre, ceci, par contre, cela, là, on n'en a rien à foutre tant que c'est pour envoyer les gens au travail dehors, quoi.
Et puis, il faut raconter aussi un peu ce qui s'est passé dans les CRA à ce moment-là, où ils ont continué à enfermer plein de gens, alors qu'il n'y avait plus aucun vol qui était permis et tout. Et voilà, donc c'était complètement hallucinant. Ou après, derrière, ils ont créé aussi des CRA spécialement que pour les personnes qui étaient soit qu'à contact, soit contaminées.
Et qui sont restées jusqu'à très récemment. Je ne sais pas si le plaisir, c'est toujours continue, le cas, mais ça continue. Quoi.
Et voilà, et après, derrière, l'utilisation de trucs de modalités de soins, quoi, donc le test, voilà, pour intensifier la répression, quoi. Et donc, dans comme ça a été le cas à l'intérieur, enfin à l'extérieur, pardon, mais de manière décuplée dans les lieux d'enfermement, en fait, toute la politique qu'ils ont appelée sanitaire était en réalité une politique sécuritaire, quoi. Et donc, ça s'est matérialisé de par toutes ces formes. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur un peu la gestion qu'ils en ont fait et tout. Et en même temps, ils donnaient ces petites carottes. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu... et donc, quand je parle de ces petites carottes, c'était les 40 euros pour pouvoir téléphoner. Parce que quand même, ils ont dit « Ah ouais, non, quand même, ça va être compliqué de pouvoir joindre les gens. Enfin, de couper complètement les liens familiaux. » Et à ce moment-là, quand ils le font...
Mais ils ne le font pas immédiatement.
Et non, ils ne le font pas immédiatement. C'est qu'en fait, il y a des révoltes qui se passent dans les prisons, qui sont les plus grosses révoltes qui se passent dans les prisons en France depuis 1945, voilà, où il y a quasiment deux tiers de prisons qui sont touchées par des mouvements sociaux. Il y a une tôle qui est à moitié détruite voilà, à Userche. Et où va y avoir des procès qui vont être complètement dispatchés, parce que comme ça, ça a permis d'éviter le procès de la gestion du Covid en tôle et du premier confinement. Et donc, en fait, ils vont faire plein de petits procès. Ils vont transférer tout le monde partout en France et ils vont faire plein de petits procès.
330 détenus transférés en moins de 24 heures dans des cars cellulaires.
Au moment où il y a la pandémie,
début avril 2020, on nous interdit de nous regrouper dehors, de sortir, etc. Sauf évidemment pour les travailleurs qui, eux, peuvent continuer d'aller prendre le métro pour aller faire du nettoyage, etc., quoi.
Et donc il y a eu deux manières de gérer le truc. Il y a eu cette carotte téléphonique en disant maintenant, vous voyez, on est humain, on peut pas complètement couper les liens familiaux. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a des marchés qui sont passés. Voilà, il le rappelle l'infâme et tout. Mais donc il y a eu cette politique super humanitaire de la part de la ministre de l'époque Belloubet, qui a lancé un truc de mettre des téléphones dans les cellules. Voilà, mais ça, bien sûr, se fait. C'est qui paye, c'est pas l'État, c'est par les prisonniers, et donc tu as des frais complètement hallucinants. Enfin, pour appeler sur un portable, c'est
et juste quand on dit de téléphone en cellule, on parle de vieilles cabines téléphoniques, ouais, des années
et
40
qui sont
là,
sur écoute,
qui sont sur écoute, et pas de téléphone portable distribué, évidemment, quoi.
Bien
alors
sûr
que plus personne n'utilise de fixe dehors, enfin, sauf une administration, quoi.
Et donc ils font ça, ils filent ces 40 balles, mais en fait, en vrai, t'as qu'un seul téléphone par coursive, donc c'était n'importe quoi, le téléphone n'était pas nettoyé après chaque endroit, tout ça, et donc plein de prisonniers à l'époque nous écrivent en disant mais c'est une blague, quoi. Enfin, en fait, moi, je vais pas aller utiliser le truc et tout ça. Voilà, faut se rappeler quand même aussi cette période là où maintenant ça fait quasiment 2 ans qu'on vit avec ça, et donc en fait on n'est plus du tout dans le même flip, mais faut rappeler qu'au tout début on comprenait pas ce qui se passait, on savait pas, et en fait c'était assez assez angoissant. Quand t'es à l'intérieur, tu sais que tu vas être pas soigné, mal soigné, que tu vas être le dernier, alors qu'on commence à t'expliquer que les services commencent à être remplis et tout, tu sais que c'est pas toi qui vont amener, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de parler de la personne qui est décédée du Covid à cette période-là, en détention. Voilà, c'était à Fresnes, si mes souvenirs sont bons.
Et en fait, juste nous, à l'époque, on disait, ah ouais, mais ça se trouve, ça va être méga tendu, il va y avoir plein de morts.
Ouais.
Le seul truc qui fait qu'il n'y a pas eu genre des milliers de morts en tôle, c'est que cette maladie, elle touchait moins les jeunes. Et que majoritairement, les gens qui sont en tôle, c'est des plus jeunes. Et que les plus vieux, généralement, c'est des longues peines qui sont dans des quartiers d'isolement et qui, du coup, voient moins de monde. Et en fait, c'est le seul truc, c'est le fait qu'on isole des gens et le fait que ce soit des populations de gens qui soient moins sensibles au virus. Mais par contre, il y aurait pu avoir des milliers de morts. Et cette politique sécuritaire, elle aurait servi à rien et on les aurait laissés crever. En fait, c'était ça le message clairement envoyé, quoi.
Et puis il était, c'est pour ça que les gens sont révoltés, quoi. Voilà. Et donc il y a eu cette carotte du téléphone et puis l'autre carotte de, on va vous filer 2 mois de permission de sortie, quoi.
Alors ça arrive en fin de premier confinement. Enfin, genre on est mi-avril, je crois, quand Belloubet elle prend la parole.
Non, c'est après les révoltes que.
Ouais, mais les révoltes, elles commencent entre le 19 mars, ça commence, les 2 jours après, il commence à avoir les premières révoltes. Et il y a genre 2 semaines hyper intenses de révoltes où vraiment de tôle en tôle ça passe. Ça passe par plein de trucs. Tu parlais du Cerche et de la tôle qui est à moitié brûlée, mais il y a aussi
des refus de remontée de promenade.
Des blocages de cellules, des appels coordonnés de tôle à tôle. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent en fait à l'intérieur. Et donc le moment où il parle de cette carotte-là des 2 mois, c'est un moment genre où il y a eu un vrai coup de pression de l'intérieur et où, 2 mois avant, parce qu'on l'oublie aussi maintenant, mais le confinement que nous on a vécu, ils l'ont vécu en Italie quelques semaines en décalé. Et ils ont appliqué la même stratégie hyper barbare en Italie et il y a eu des révoltes de dingue. Et du coup l'administration pénitentiaire, elle flippe en fait à balle que ces révoltes, elles se transforment en mutinerie généralisée et que tous les matons soient obligés de fuir des tôles.
Et il faut rappeler, en Italie, ils ont tué 13 prisonniers. Je ne me rappellerai plus le nom de la prison. Mais voilà, ils ont tué 13 prisonniers. Et donc, ils font cette blague là de dire on va libérer des gens. Et voilà. Et en réalité, en fait, ils ont libéré quasiment personne. Mais vu qu'il n'y avait plus rien à l'extérieur, en fait, les tribunaux fonctionnaient moins. Et en fait, on sait ce qui remplit complètement les tôles en France, c'est les comparutions immédiates. Et donc, les comparutions immédiates, en fait, ne fonctionnaient pas. Il n'y avait plus personne qui rentrait.
Il y en avait. C'est juste qu'ils différaient les peines aussi, vachement.
Ouais, et puis il y en avait beaucoup moins et tout, et donc ça a beaucoup moins incarcéré, et donc par des questions de flux, quoi, il y avait des gens qui devaient sortir, parce qu'il y a quand même des gens qui sortent de prison tous les jours.
Il y a 20% des gens en France qui sont sur des peines de prison de moins d'1 an, et du coup de fait, mathématiquement, il y a plein de gens qui sortent tous les jours, parce qu'ils ont des peines courtes, plus tous les autres qui ont des longues peines, qui, bon, bah, un jour, quand même, heureusement, la peine, des fois, elle s'arrête, quoi.
De temps en temps, enfin, rare si t'as pas chopé des peines à l'intérieur et tout, mais voilà. Mais donc, de fait, ça s'est vidé comme ça. Ça s'est fait vider simplement parce qu'il y a moins de personnes qui ont été incarcérées. Et donc, bon, tu vois très bien, en fait, enfin, voilà, pour la suite, comment on peut vider les prisons. Et par contre, voilà, ça c'est l'autre truc aussi, il y a une intensification hyper forte de la répression sur les étrangers.
Et les étrangers qui sortent de tôle. Et en fait, il y a beaucoup de gens à qui on a dit non, mais ils ont été libérés 1 mois avant leur fin de peine, qu'ils ont refoutu en CRA pour 3 mois, 6 mois, etc. Donc en fait, on a allongé leur peine concrètement, juste on les a envoyés dans d'autres lieux d'enfermement, quoi.
Ouais, parce que vu qu'ils avaient, enfin, parce que souvent ils expulsaient les gens aussi à la fin de leur peine et tout ça, donc ils mettaient en place le vol et tout. Là, en fait, ne pouvant pas faire des vols et tout, ils rajoutaient ces périodes de CRA, quoi. Voilà. Et donc ça a été le grand discours soi-disant humaniste et tout ça. Et derrière, juste à la suite de ça, il nomme Dupond-Moretti, voilà, et là qui est accueilli à Fresnes. Sa première visite, ça va être dans une tôle, voilà. Moi, j'arrive pas à le lire autrement que c'est hyper malin de leur part, parce qu'en fait, ils savaient très bien que les prisons étaient à feu et à sang, et ils savaient aussi très bien que les périodes d'été sont les périodes toujours les plus tendues dans les tôles en France. Et donc là, en fait, ils amènent un type qui est un avocat, qui a parfois défendu certains prisonniers célèbres et tout. Et la première visite que va faire ce gars, ça va être dans une tôle. Donc ça peut être vu à l'intérieur comme étant un marqueur de « Ah putain, ça y est, pour la première fois, on va nous écouter et tout. » Et alors que 3 jours après, ce qu'il va faire surtout, c'est aller célébrer des matons qui qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, et tout en rappelant qu'il va augmenter les matons et tout ça, et donc dès le début. Mais vu qu'ils arrivent à faire ça, en fait, ils arrivent à appeler à obtenir la paix, en fait, pendant tout l'été. Et ça nous a été aussi décrit pas mal par, je pense à la Haas ou ce genre de truc qui nous avait raconté comment c'était passé quand il était venu à Fresnes, que lui, il n'avait pas compris. Et qu'en fait, il y a eu l'espoir à un moment que les prisonniers soient un peu entendus, quoi. Et en fait, on voit très bien ce qui s'est passé par la suite, quoi. Mais donc, ce qui est important, c'est de dire que voilà, il y a une gestion au départ qui est vraiment un truc pour essayer d'éviter qu'il y ait trop une fournaise, quoi, et que ça explose trop. Et c'était ce qu'on déjà disait à l'époque, c'est que ils ont réussi à rajouter du répressif et énormément, et puis de rajouter de l'isolement et tout, mais que ils ont réussi à contenir à peu près les mouvements collectifs qu'il y a eu à l'intérieur de la détention, mais qu'après, derrière, pour réobtenir ce qui venait d'être perdu, ça allait être très très long. Et là, c'est globalement ce qui se passe depuis un an et demi, quoi. Dans lequel on raconte tous les jours, toutes les semaines à cette antenne et tout ça, ce que raconte la femme dans sa lettre et ce qu'on va raconter dans d'autres lettres tout à l'heure, que les parloirs sont pas récupérés normalement. Voilà, qu'il y a eu toujours cette utilisation de la politique entre guillemets sanitaire à des visées sécuritaires, où on va te dire t'auras pas tes permissions de sortie si t'es pas vacciné, enfin voilà, plein de trucs qui parfois n'étaient même pas dits, mais en fait ils laissaient juste courir la rumeur, ce genre de trucs, parce que c'est normal d'être flippé par rapport à ça. Et donc voilà, il y a rien qui a été fait à part de la répression et surtout la perte de plein de micro-espaces de liberté qui pouvaient exister.
Moi, je voulais juste revenir à un truc quand on disait il n'y a pas de politique sanitaire, il y a une politique sécuritaire. C'est globalement, depuis quelques décennies, il n'y a pas de politique sociale de l'État français. Et du coup, dès qu'il y a une crise, elle se résout généralement par en fait des nouvelles lois sécuritaires pour qu'on ferme notre gueule, qu'on ait chaud d'aller manifester, de se battre. Depuis, il y a eu des nouveaux délits sur les blocages de voies ferrées, les blocages d'entreprises, etc. Enfin, c'est devenu délictuel de faire tout ça. Et du coup, en fait, on est sur des phases où, vu que l'État social a disparu, déjà qu'avant, l'État a toujours eu un rôle répressif et de faire accepter l'ordre social aux gens, il reste que la répression pour faire fermer leur gueule aux gens. Et il y a de moins en moins ce truc d'acheter la paix sociale. Maintenant, on te matraque et on te dit ferme ta gueule. Et donc, là, on le voit, et ça a été mis genre vachement en avant par la crise sanitaire, qui a été, où la réponse a été sécuritaire. Mais les crises économiques qu'on a vécues depuis 2008 à répétition, elles ont toujours ramené des nouvelles lois répressives. Et on le voit, en fait. On l'a vu au moment des Gilets jaunes avant. On le voit depuis, avec le Covid, où leur soi-disant quoi qu'il en coûte, là, dont ils n'arrêtent pas de nous parler, où, en fait, ils ont renfloué les boîtes. Et bien, en fait, ça s'est soldé par... on passe quand même la réforme chômage, donc on précarise davantage les plus pauvres, on veut passer la retraite à 65 ans, etc., etc. Et du coup, en fait, on sait, là, ils sont encore en train de nous parler d'une prochaine loi de flexibilisation du marché du travail, donc encore moins de droits du travail, donc plus de précarité, pour le prochain quinquennat. Et il y a plein de candidats, candidates qui portent ça, quoi. Et du coup, on sait que c'est ça la réponse maintenant, parce que dans leur logiciel de gouvernant et de la haute fonction publique, il n'y a plus d'État social et il n'y a plus de réponse possible autrement que par nous taper plus sévèrement sur la gueule. C'était le premier truc. Après, pour continuer un peu sur ta lettre, il y a un moment où tu fais la distinction entre maison d'arrêt et quartier maison centrale, les QMC. Et en fait, c'est très vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à Valence, ils en ont profité pour réduire les parloirs dans les QMC que au dimanche. Déjà, c'est un truc de narvalo, c'est-à-dire que tu travailles le dimanche, tu peux pas voir ton proche. Ça, c'est un truc de ouf. Évidemment, la réduction du nombre d'heures de parloir, c'est aussi scandaleux. Mais qu'en fait, en maison d'arrêt aussi, pendant un temps, ils ont réduit le nombre de parloirs possibles. Tant que tu pouvais voir qu'une fois par semaine. Il y a un moment, les parloirs, ils ont été réduits en temps. C'est plus long maintenant, les fouilles, les machins. Donc, de fait, ton parloir, il se réduit. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent au fur et à mesure. Et du coup, là où je voulais dire qu'en fait, je comprends ton seum. Mais que tu le diriges bien, parce qu'en fait, le problème là-dedans, c'est la gestion gestionnaire de l'administration pénitentiaire qui regarde où est-ce qu'elle peut gratter à gauche, où est-ce qu'elle peut gratter à droite. Évidemment, comme maison d'arrêt, il y a plus de monde que de matons, et que du coup, des fois, c'est plus dur de tout gratter d'un coup, quoi. Mais que s'il le pouvait, il réduirait aussi à un parloir par semaine, parce que c'est les revendications des matons, de faire le moins de mouvements possible et de laisser le plus de gens possible en cellule le plus longtemps possible pour être le moins possible en contact avec les gens, quoi. Enfin, voilà. Et en parlant de différenciation et tout, j'en reviens juste sur la fin de ta lettre. Tu vois, bah, on en a déjà parlé 1500 fois à l'antenne et 3 millions de fois avec toi. Nous, on n'est pas juge, en tout cas. Donc nous, on n'est pas là pour juger pourquoi la personne, elle est béton, tout ça, ça ne nous intéresse pas. C'est sûr qu'on ne se mettra jamais du côté des Poucaves, parce que les Poucaves, en fait, ils rentrent dans le rôle de l'institution. Et qu'en même temps, l'institution, elle est faite pour créer des Poucaves. Et que du coup, c'est ça qui est toujours compliqué. On ne soutiendra jamais le fait de faire béton des gens ou de réussir à leur faire péter le téléphone ou je ne sais quoi, tu vois, à l'intérieur. Mais par contre, c'est les matons, l'administration pénitentiaire, les techniques policières qui font qu'il y a des gens qui se retrouvent à Poucave, même quand ils ne le veulent pas, quoi. Moi, je ne parle pas des indics qui sont payés par l'État, etc. Mais je veux dire, il y a plein de fois où les gens ils parlent en garde à vue, ils pensent bien faire. Et en fait, la manière dont ils parlent, bah, ça permet de faire béton quelqu'un d'autre et aussi eux de les fumer, quoi. Et du coup, c'est toujours ça qui est compliqué, quoi. Il y avait une émission là, qu'on a diffusée le 24 décembre où on racontait ça sur la révolte au Ménil-Amelot il y a 2 ans, là, où en fait, le copain qui vient ici, il raconte très bien comment la première personne qui poucave force tous les autres à parler. Alors, il y en a qui vont poucave les autres, d'autres qui vont s'auto-poucave, etc. Mais qu'en fait, dès qu'il y a une dynamique de parler face à ces gens-là, tu retombes là-dedans. Et du coup, voilà, bah, en tout cas, sur les poucaves, on te suit plus ou moins, quoi. Mais que sur le reste, nous, on n'est pas là pour juger, même si, voilà, enfin, moralement, on peut avoir des avis, quoi. Mais c'est pas tant la question pour nous à l'envoler, parce que pour nous, la question, c'est le fait que les gens, ils soient prisonniers, qu'ils soient enfermés. Et ce, en fait, quel que soit le truc que tu as fait, que ce soit le truc le plus abject du monde ou pas, on pense pas que c'est à nous, collectivement, à travers l'État ou quoi, d'aller se venger, d'aller faire de la torture blanche, parce que c'est ce qui se passe pour tous les gens accusés de terrorisme, par exemple, aujourd'hui. Et c'est pas cautionner ce qu'ils ont fait que de dire qu'en fait, nous, on n'est pas pour les mettre à l'isolement, qu'ils n'aient aucun contact avec l'humanité et qu'ils voient que des matons racistes. En fait, c'est juste dire que tu réponds pas au mal par le mal, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, et que ça amène à rien, ça fait vénère encore plus les gens et à briser des vies, quoi. Et donc voilà, donc, nous on ne se mettra jamais dans la position de juge, mais parce que ce n'est pas la nôtre, et que nous on est du côté des prisonniers qui veulent réfléchir sur la tôle et qui veulent essayer de mettre fin à ce système d'enfermement de masse, quoi.
Et puis moi je voulais rajouter un truc sur, voilà, tu avais l'air de te sentir un peu seul tout face à l'énervement qu'il y avait sur les t'appelles ça les enculeries, j'ai pas envie d'employer ce terme là, mais sur la manière dont sont mis en place les parlus dans ton QMC, et je pense qu'il y a ce truc aussi, que tu sois à l'isolement, que les contacts soient toujours un peu plus compliqués et tout ça à faire, mais en tout cas, voilà, ce qu'on a un peu raconté sur le Covid et tout, c'est que il y a moyen de créer du collectif en détention et tout. Alors, je t'ai dit pas ça parce que, enfin, je sais que t'es à l'isolement et tout, donc c'est pas du tout la même et tout. Voilà. Et toi, en fait, et comme il y en a plein d'autres. Enfin voilà. Tout à l'heure, il y aura une lettre de Kémy qui était à l'isolement et tout ça. Et en fait, on sait que les murs, en fait, et donc t'as l'impression que le mec qui est à côté de toi, il va pas vouloir faire du collectif. Enfin voilà, que ça va être compliqué et tout. Mais en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a l'envolée. Et en fait, il y a plein de mecs et de meufs qui sont dans les couloirs de l'isolement, qui essayent de lutter autant qu'ils le peuvent et qui vont créer du collectif là où c'est possible. Et, enfin, en tout cas, nous, l'objectif, c'est que l'envolée, ça soit là pour ça et qu'il y ait une discussion qui s'entame entre vous à travers soit le journal, soit la radio quand vous la captez. Voilà, mais c'était juste pour te dire, je pense que t'es pas le seul face à ça. Voilà.
Ouais, et puis même il y a un moment où tu reviens sur les prises d'otages, que nous on appelle prise de parole, c'est-à-dire en fait c'est pas vraiment une prise d'otage, parce que tu retiens un maton de manière contrainte dans un lieu fermé. Ça ressemble beaucoup à ton quotidien, quoi. C'est juste que t'inverses les rôles rapport au quotidien. Le truc, c'est que ces prises d'otages, ces dernières années, elles se multiplient. Elles se multiplient pas parce qu'il y a de plus en plus de preneurs d'otages en tôle, elles se multiplient parce qu'il y a de plus en plus de gens en quartier d'isolement en tôle. Et qu'en fait, quand tu es tout seul, tu peux te coordonner à 2 cellules d'écart ou un truc comme ça, mais tu peux pas faire des gros mouvements de masse, bloquer une promenade, imposer un rapport de force. Et du coup, une fois que tu as épuisé toutes les voies administratives, évidemment qu'il y a des gens, ils sont obligés de prendre la parole de cette manière-là, quoi. Et en fait, tu pousses les gens dans leur retranchement. Et il faut quand même le dire, c'est qu'il y a quasiment aucune prise d'otage qui aboutisse à la mort de matons ou à des blessures graves pour les matons. Et donc, c'est vraiment juste des moyens pour les gens de parler. Par contre, des tentatives de prise de parole de cette manière où tu inverses le rôle, où il y a des détenus qui sont gravement blessés, voire des proches de détenus qui meurent. Ça, par contre, ça arrive. Et donc, il faut toujours rappeler là où elle est, la violence. La violence, elle est du côté de l'État, de ces hommes en armes. La violence, elle n'est pas de l'autre côté. Parce qu'en fait, les prisonniers qui prennent la parole de cette manière-là, ils font hyper bellec. Ils font hyper bellec à ne pas blesser la personne le moins possible. Parce qu'ils n'ont pas envie de prendre une peine à deux chiffres qui va jusqu'à 30 ans. Et du coup, c'est comme on le disait avec les proches, etc. Les gens responsables, c'est plutôt nous, en fait. Et les irresponsables, ils sont plutôt en face de nous. Voilà, quoi. Et peut-être, ouais, non, juste pour continuer sur ta lettre, il y a un truc aussi que moi, enfin, il y a deux, trois autres trucs que j'ai trouvé intéressants. Il y a un moment où tu parles du fait qu'il n'y a pas de réinsertion, il n'y a rien qui est fait pour la réinsertion, des causes un peu de la prison, quoi. Et en fait, ça rappelle juste que le rôle réel de la tôle, c'est pas de lutter contre la délinquance, c'est de faire peur aux gens qui sont pauvres pour pas qu'ils aient envie de manger autrement que de la manière dont on leur impose. Sauf que manque de peau depuis 40 ans, manière de tirer les salaires à la baisse, de nous faire accepter la fin de nos droits sociaux, il y a un chômage de masse. Il y a des millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, etc. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à accepter des tafs de merde, etc. Et parce qu'on est en train de faire de la concurrence entre nous, il y a de plus en plus de gens qui, même si ce n'est pas leur projet de vie, se retrouvent à devoir grailler à gauche, à droite et à faire ce qu'on appelle très gentiment des délits économiques, c'est-à-dire à outrepasser les lois qu'on a fixées pour nous, parce que ce n'est pas nous qui les fixons, et à trouver des manières de manger autrement. Tous ces gens-là, ils sont réprimés très fortement. Il y a beaucoup de gens qui sont en taule pour stup, pour vol, pour conduite sans permis. Il y a beaucoup de conduite sans permis, en fait, c'est pour aller travailler.
Oui, puis c'est pour quand tu n'as pas pu te repayer ton permis, parce qu'on voilà. T'a fait sauter.
Et c'est aussi une conséquence des réformes du permis, parce qu'avant, il n'y avait pas de points. Donc, tu te faisais moins sauter le permis. Enfin bref, c'est tout un tas d'arsenal comme ça qui vient droite-droite, pas à gauche-à-droite, mais enfin voilà quoi, nous enfermer là-dedans. Et du coup, je trouve que c'est hyper important à chaque fois, parce que quand on parle de la gestion du Covid en tôle, en fait, à chaque fois, tous ces moments de crise, un peu de tension, ils remontrent le vrai rôle de la prison pour l'extérieur. Parce qu'il y a le but d'enfermer les gens, les QI, c'est un peu la tôle dans la tôle, donc il faut faire peur aux autres prisonniers qui sont là. Mais au moment du Covid, on nous disait bien, pour les gens qui étaient dehors, première fois, c'est 135 euros d'amende. Deuxième fois, c'est genre 400 balles. Troisième fois, ça peut monter à genre 1500 balles. Quatrième fois, tu vas en tôle. Et donc, il y a plein de gens qui sont béton pour ces conneries-là, quoi. Enfin, c'est donc le rôle de la tôle, même pendant le Covid, il était très clair, en fait. Et la manière dont l'État a de penser la société et la tôle.
L'épouvantail, quoi. Ce truc qui doit faire peur pour que tu restes dans le rang, quoi.
Ouais, et bah, il y a deux autres trucs. Il y a un moment, tu parles de la Russie et de Poutine. Et du truc de. Bah, évidemment, Macron, il est en train de détourner le sujet en faisant genre, il passe des coups de fil avec Poutine. Coup de fil qui sait qui sert à rien, etc. Mais moi, en fait, ce qui me faisait. Ce à quoi je pensais quand tu disais ça, c'est que récemment, on nous a parlé de dissolution des journalistes, enfin de médias en Russie, pour nous dire, waouh, ouais, là-bas, c'est le fascisme de ouf. Bah, l'émission de la semaine dernière, on parle de dissolution. Et de comme quoi, ici, c'est bizarre, on ne nous dit pas, tiens, c'est le fascisme. On nous parle des interpellations de masse en manif. Il y a des rassemblements de 30 personnes, il y a 15 interpelles. C'est gaulerie, parce que moi, j'ai souvenir de manif, on était 30 et il y a eu 11 interpelles. Alors que c'était une manif contre la prison à 30. Enfin voilà. Et en fait, non, mais c'est exactement ce même truc de tout d'un coup, il y a un tapage médiatique en disant, bah, c'est scandaleux, ils ont interpellé plein de gens. Il y a le 1er mai 2018 et c'est l'État qui communique sur le fait qu'il y a 400 ou 300 interpellations. Et donc, en fonction des situations, tout d'un coup, interpeller des gens, ça devient hyper frais, ou alors c'est un signe de dictature. Et en fait, c'est là où on voit genre, ce que ça veut dire une propagande d'État, et ce que ça veut dire aussi genre, des médias au service de la bourgeoisie. C'est exactement dans ces moments-là, quoi. C'est des mêmes faits utilisés à gauche, à droite, on va les retourner dans un sens ou dans un autre. Et nous, on est contre l'interpellation de tout le monde, quoi. Genre, voilà. Et le dernier truc, qui pour moi était important, c'est un moment où tu dis dans ta longue liste de tous les gens que t'aimes bien, etc., tu parles des PDG. Bah, ce serait ma seule retenue avec ouais, les PCAP. C'est que par contre pour les PDG, pas de pitié mon pote, je suis désolé. Non, voilà. Mais on en reparlera dans la réponse quoi, par écrit. Mais voilà, non, eux ils sont là contre nous. Et pour moi c'est la même chose qu'un flic, sauf que lui il est en Starco et qui donne les ordres quoi. Mais s'il n'était pas en Starco, il serait avec une matraque en train de nous défoncer. Donc pas de pitié avec ces gens-là. Ils sont pas de notre camp et ils ont rien à voir avec le reste de la liste que t'as faite quoi.
On va passer un petit coup de musique et puis lire deux autres lettres juste après.
Yo, I'm on my knuckles for this hustle. Got the mind and the muscle, never stumble, moving majorly. Baby gotta pay me for the steaming 16. Leave them leaning like the Pisa Tower, power in my focus. Devour like the locust, any jokers on approach and let them know we taking over. There is no competition, leave them wishing we were ended. But this is business, we ain't stopping till we finish. Cats bit of black licorice. Never been another like a to inspire writers, leaving biters in my wake. Take those, stack pesos, buy the caseloads. You ain't no. Don't rhyme for dap, go get your passport stamped. Granted, you can't stand it, hit the pavement, go in canvas for them votes. I'm in the lab, hitting dope notes. You can go and quote it only if the scope is focused. I keep the potion potent, it's all fluid motion. Got out of my dreams, got into my car, I'm ocean. And I'm slicker than your average, boogies are savage. Leave you tossing, turning atop your mattresses. All I'm giving is my ass to kiss. Gon' miss me with that bullshit, bitch. Running them gums like you toothless, it's useless. New and improved, this is juice on the roof. Top the creme de la creme, action. Who you asking, right? Pack light, baby, style tight. Ever since I picked up a mic, send them swinging like medallions. Bring the battalion, it's the black stallion. While and throw them towels in. Basic bitches and niggas get it heavy. School you want some legendary shit, check out my melody. A heap and help in a high regard. I evolve and I'm seeing through you, my nigga. It seems it's all mirage, you're a fraud. I'd you call yourself an MC when half the shit you say in your music you don't believe, nigga, please. You ain't got shit for me. Funny how you brag when your actions don't match your story. You bore me. Too many gangster flicks and magazine clips. Too many bitches on material shit. Too many niggas on the next man dick. All in the pic on some groupie shit. Motherfuckers got it twisted. Talk more than you listen. Just starving for attention like a little kid. Soak it all in so you can emulate. Then turn around and hate the shit I create. You a phony, a fake, a fan, a pussy, a stan. Lowly as a snake in the grass. You all trash and I'm done with it. Me and Apollo about to run shit. So come and get it if you tough enough to fuck with it. You can't touch this grind, this shine, nigga. So keep your day job, we mobbing through the take guards. What?
It's a universal power shift, underground progressive shit. Ubiquitous, progress sustained, undeniable. Poignant, simply, unapologetic. Passionate, status unclassifiable. Prosper, save underhanded politics. Snatching up paper unabashed. Pure, supreme, unmatched. Positively solid, unbelievable. Power, shine.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Je vous redonne rapidement les contacts. Pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, L'Envolée-FPP. Et donc, on va continuer et terminer cette émission sur le non-déconfinement des tôles. Et on va vous lire d'abord une lettre de Dorfer. Je le présente juste en vite fait. Dorfer, c'est quelqu'un qui est béton à 16 ans, qui a pris une peine, je crois, de 8 ans ou un truc comme ça. Non, moins, Dorfer, 6 ans. Et qui, après, de peine interne, de révolte en révolte, se retrouve aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, à je crois, il lui reste encore 38 ans de prison ou un truc comme ça, quoi. Et du coup, on lit régulièrement des lettres de lui. Il y a des lettres de lui qui sont disponibles dans le dernier numéro et dans le bouquin. La peine de mort n'a jamais été abolie. Il ne faut pas hésiter, à l'intérieur, c'est gratuit. Et on va lire sa lettre qui est toute récente et qui parle du Covid.
Salut à tous. Aujourd'hui, voilà 2 ans que le Covid a posé ses bagages en prison. Mars 2020, voilà le premier confinement pendant des semaines. Les visites au parloir étaient interrompues, les UVF annulées. Et dans certaines prisons, cela a mis plusieurs mois à reprendre. Beaucoup de mesures sanitaires se sont transformées en nouvelles règles inscrites dans le marbre en détention et sont appliquées de façon permanente. Parloir vitré, heures de réservation réduites, allant dans certains cas de plusieurs heures réduites à une seule heure par journée, dans nombre de prisons. Les mesures liées à la Covid sont devenues un moyen de restreindre les droits. Nombre de personnes au parloir réduit à 2 ou 3, UVF idem. Activités en détention annulées, voire complètement supprimées. Demande de vaccins ou tests pour accéder aux UVF. Isolement de personnes ayant eu des contacts au parloir ou en retour UVF. Bref, sans parler du réel manque d'informations, on a pu voir nos droits réduits en ayant comme seule réponse, c'est le Covid. Pour info, le 14 mars, le masque n'est plus obligatoire à porter. Donc à toutes et à tous, n'oublie pas de vous informer et demande des informations. Merci à L'Envolée de traiter ce sujet, car rares sont les infos sur le Covid en prison. Dans la majorité des cas, cela n'a été que le moyen de faire régresser les droits et remettre des vitres dans les parloirs. Bref, les amis, il est très important de rester informés. Merci encore aux équipes de l'Envolée, merci de nous informer, courage à tous, force à tous. Ne laissons pas le droit de côté, demandez c'est s'informer. Francis.
Bah, on aurait peut-être pas mieux fait de ne pas blater pendant 40 minutes, parce qu'il a très bien résumé la situation. Simer pour cette lettre, concise, claire, nette et précise. Quoi.
Contrairement à nous. mais c'est toujours important de le rappeler. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que voilà, quand on raconte des trucs, c'est aussi toujours basé sur la parole des prisonniers et des prisonnières. Et que donc, ce qu'on essaye de décrire, c'est comment c'est vécu de l'intérieur à travers ces lettres. Et pas que, quoi, mais voilà. Et juste ouais, un petit truc et tout ça, c'est que il y a eu aussi plein de rumeurs à ce moment-là et aussi des gestions par établissement un peu à comment voilà et par exemple là quand il disait certif de vaccination ou de test et tout, en fait il n'y a jamais eu de décret qui est passé du côté du ministère et tout, mais en fait il y avait ces genres de rumeurs qui se déplaçaient simplement parce qu'en fait il y avait une tôle qui le faisait et qu'en fait tous les proches étaient en contact sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que pendant le Covid ça a aussi été un truc qui s'est vachement développé, c'est que tous les proches sont énormément contactés et donc en fait quand t'apprends que dans une tôle qui a décidé de manière complètement arbitraire, de complètement illégale aussi de mettre en place un nouveau truc ou simplement une spip qui est pas assez claire quand t'appelles pour savoir comment va se passer ton parlu,
ouais, puis ça se trouve elle sait même pas elle, enfin oui,
ouais, mais elle dit si ça serait mieux de l'avoir comme ça, voilà quoi. Et tout. Et donc après derrière, la vraie conséquence que ça a, c'est que les gens se privent d'y aller ou ce genre de truc quoi. Et il y a jamais eu de communication claire de l'administration pénitentiaire là-dessus, mais parce qu'en fait ça les arrange de ouf de dire ah bah oui d'accord, et donc comme ça les gens ils savent très bien qu'en fait les gens vont s'interdire de faire des trucs et tout.
Puis il faut le rappeler qu'en tôle il y a pas le règlement intérieur, il est disponible mais que pour les matons. C'est-à-dire que du coup on parle tout le temps de règlement, mais toi tu n'y as jamais accès. Et en fait c'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication quasiment depuis le début, sauf au moment des révoltes où Belloubet est obligé de parler vraiment un tout petit peu de ce qui se passe en tôle. Sinon il n'y a aucune communication officielle. On te dit, par exemple c'est le premier confinement, ok t'es confiné, mais t'as le droit de te déplacer pour mesure essentielle. Alors en parloir c'est une mesure essentielle. Du coup les gens ils se disent ok les parloirs ils sont maintenus. Après t'apprends que finalement non. Et c'est la même chose. On te dit 10 km, mais peut-être tu peux aller plus loin. Et en fait, c'est toujours la même chose. Vu qu'il n'y a aucune communication officielle, toi, tu en es réduit à essayer de gratter des informations soit auprès de proches, qui sont souvent les informations les plus fiables, soit auprès de l'administration pénitentiaire, où les gens qui te répondent, ils ne sont pas vraiment au courant, ils ne captent rien, et dans le doute, ils disent une connerie, parce que voilà quoi. Et c'est pareil pour le 14 mars, ce moment où on enlève les masques à l'extérieur. Bon, bah évidemment, tout le monde sait que c'était totalement arbitraire, parce qu'entre le 13 et le 15... il n'y avait pas vraiment grand-chose qui avait changé, quoi, que c'est une date qui avait été fixée 6 semaines à l'avance. Bon, voilà. Du coup, du jour au lendemain, voilà, plus de passe vaccinale, plus de masques. Et ben, en tôle, on ne savait pas. En fait, on ne savait pas. C'est-à-dire, avant qu'il y ait des matons qui rentrent dans les coursives ou qui aillent le dire au petit-déj ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas en fait, que les masques vont être levés le 14 mars. Parce que c'était très possible que cette règle qui s'appliquait dans les lieux ouverts à l'extérieur ne s'applique pas en fait, dans un lieu fermé qui est une tôle. Et donc, tu es soumis encore une fois à comment le directeur de la tôle locale a décidé, en fonction de comment les syndicats de matons hypercorpo ont décidé de mettre le rapport de force. Vu qu'eux, ça les fait plutôt chier le masque, bon, bah voilà, plutôt ils étaient contents de l'enlever. Mais c'est vraiment genre totalement arbitraire. Voilà, par contre, le lendemain, c'est cluster, c'est fin des parloirs, c'est etc., etc., quoi.
Et on va lire une autre lettre. Alors c'est une lettre dont on a déjà lu un bout la semaine dernière et on n'avait pas lu la fin qui parlait du Covid.
Salut l'envolé. Pour le Covid en prison, ici ils sont tranquilles. Parloir, UVF, salon, tout est disponible sans restriction. Juste, si le détenu n'est pas vacciné minimum 2 doses, c'est par lui hygiaphone et confiné 7 jours. Mais si t'es vacciné, c'est tout normal et pas confiné. Après, ça reste 1h30 à la place de toute la journée et 2 visiteurs maximum, mais tu peux négocier pour un mineur en plus de 2 majeurs. En détention, tout est normal, juste on doit porter le masque, sinon rien n'a changé. En plus, le masque, on le met que quand on a en entretien ou parloir, sinon il casse pas les couilles. Bref, tenez, s'il vous plaît, dites à Denise que la plante grimpante que j'ai dans ma cellule a donné des belles petites fleurs bleues. En attendant de vos nouvelles, prenez soin de vous les poteaux, à plus, Kémy.
Ouais, donc c'était une lettre de Kémy. Elle est assez drôle, ta lettre, parce que tu dis tout est normal, mais en fait, c'est pas du tout normal.
Attends, on comprend qu'après 3 ans en QI, tu trouves ça normal que les règles elles changent du jour au lendemain et qu'elles s'appliquent que à ta tôle ou que à toi, quoi. Enfin...
Non, puis c'est ça, en fait, c'est aussi. Enfin, moi, je trouve que cette lettre, c'est ce qu'on a décrit. Voilà, c'est qu'en fait, on s'est tous habitués à des trucs. Voilà. Et donc, quand tu dis, si t'es pas vacciné, tu te retrouves à faire un parloir hygiaphone, c'est un truc de ouf. C'est une mesure disciplinaire qui est prise contre toi parce que t'es pas vacciné. Voilà. Donc, la vaccination n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune raison que tu sois pénalisé pour ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est complètement
hallucinant. Elle n'est pas obligatoire.
C'est vrai qu'elle n'est pas, pas obligatoire
façon Macron, quoi. Ouais, façon Macron, elle est un peu obligatoire quand même.
C'est clair.
Voilà. Mais vu que maintenant c'est la guerre en Ukraine, bah, vas-y, c'est bon, elle n'est plus vraiment obligatoire. Mais on ne sait pas trop pour l'automne.
Ouais, je pense que c'était plus les élections que le truc et tout. Mais voilà, et c'est un vrai truc, parce qu'en fait, voilà, tu racontes aussi que ça se passe par des négociations, toujours avec l'administration pénitentiaire. Et ça, en fait, c'est le genre de truc où ça renforce l'arbitraire de l'administration contre toi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pouvoir... Si toi, il y a un moment, en fait, ça va mal se passer. Là, pour l'instant, en ce moment, c'est cool dans ta détention et tout. Mais pour une personne qui va s'embrouiller, en fait, avec un surveillant, parce que le surveillant était mal luné un matin, ou pas qu'un matin, parce que c'est souvent le cas où tu t'embrouilles avec quelqu'un. En fait, après, derrière, ça leur donne le pouvoir d'utiliser ça contre toi. Et donc, ces petits pouvoirs de négociation, en fait, des fois, t'as l'impression que ça se passe bien et que c'est cool et que le maton il te fait une fleur tout ça et que en fait la situation a pas trop changé. En fait c'est des trucs qui sont je vais pas dire dangereux parce qu'en fait il faut les prendre tout le temps à chaque fois, en fait il y a pas la question et tout, mais c'est aussi une manière dont ils ont le pouvoir sur les gens qui sont enfermés, en fait, parce que il y a pas de recours contre le entre guillemets, petit cadeau que te fait le maton, alors qu'en fait, le petit cadeau, à la base, c'était la norme, c'était même la loi. Et donc, en fait, tu te retrouves à plus pouvoir, en fait, te défendre et tout face à ce genre de truc. Et donc, moi, je pense que ça fait partie des trucs qui sont dangereux quand, en fait, ça se passe par la négociation directe avec l'administration et qu'il n'y a pas, tu vois... alors je suis pas du tout pour dire qu'il faut que tout soit judiciarisé et tout, mais tu vois, il y avait un truc qui était ton droit initialement, qui était déjà rarement appliqué, voilà.
Mais c'est juste qu'en fait, quand tu sais ton droit, tu sais sur quoi tu te bats pour gratter des nouveaux droits, et tu sais sur qu'est-ce que t'as le droit et qu'est-ce qui en fait est la base. Et c'est la même chose maintenant avec le marché du travail, avec tout. On sait plus exactement qu'est-ce qu'on a le droit, de qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Du coup, tu te retrouves toujours à négocier des marges de machin truc, mais tu sais jamais quand c'est marge, c'est juste ce qu'on aurait dû te filer à la base, de qu'est-ce que tu as vraiment gratté à ton patron. Et donc, tu te retrouves à lutter pour des trucs qui ne sont pas à la con, tu vois. Mais quand tu parles de négociation pour amener un mineur en plus des deux majeurs, et ben en fait, maintenant, il y a eu un truc de la direction de l'administration pénitentiaire, c'est un droit. Il n'y a pas à négocier, en fait, pour amener un mineur. C'est tout, tu vois. À la limite, la négociation, elle devrait se passer pour le deuxième mineur. Et du coup, tu vois, tu en arrives à dire, ok, bon, vas-y, les matons, ils sont plutôt cool parce que tu peux négocier ça. Mais c'est juste scandaleux, quoi. Et c'est toujours ce flou-là qui permet en fait de revenir en arrière et de faire qu'on se batte pour des trucs qui nous sont déjà acquis, en fait. Et c'est là la force du flou et de changer les règles toutes les deux semaines.
Et là, on arrive, et donc, enfin, c'est aussi cette émission, c'était aussi pour faire un appel à tous les gens qui nous entendent et qui nous écoutent pour nous envoyer des infos sur comment ça se passe en ce moment dans les tôles et en particulier sur les parloirs, mais pas que. Voilà, savoir aussi comment c'est utilisé le Covid, la vaccination et autres dans l'application des remises de peine ou ce genre de trucs, et aussi dans le parlu, parce que c'est quand même le truc qui nous semble vraiment très très important.
C'est juste Libreflow qui racontait dans une lettre qu'on lisait la semaine dernière que pour aller le voir à l'hôpital de Fresnes, il fallait avoir le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un truc qui a été abrogé, quoi, où on n'a plus besoin, en fait. Mais là, tout d'un coup, tu as un nouveau besoin. Donc c'est toujours le même arbitraire et tout. Et en fait, c'est hyper important d'essayer de capter c'est quoi les différences qu'il y a dans tous les établissements pour qu'on capte, en fait, à l'échelle nationale, que les différences, elles ne sont pas si différentes et que le problème, c'est que partout, on nous dit « non, mais t'inquiète », etc. Et que le même problème, c'est l'administration pénitentiaire, donc le ministère de la Justice, donc Dukon Moretti et donc Macron, quoi.
Et donc, globalement, en fait, il y a des choses... s'améliorent, ça me fait chier comme terme, mais en tout cas sont à peine moins pires que ce qu'elles étaient avant. Mais donc à Saint-Thé, ça serait revenu comme avant, en tout cas au niveau du parlu. À Moulins, ça serait revenu comme avant, avec les horaires aussi, et il n'y a pas de confinement après l'UVF. Mais par contre, il y a des petits coups de chien, comme on remet plus de boissons dans les machines ou ce genre de trucs. Chose qui peut sembler insignifiant, voilà. Ouais, mais en fait, non, parce que quand tu as la tente et tout, tu as tes enfants et tout ça.
Normalement, dans les centrales, tu pouvais partager grâce à la machine. Un peu à graille, des trucs, des sucreries, une canette, un truc comme ça. Et donc, c'était un moment où tu étais en parlu, mais tu partageais quand même un tout petit peu plus que dans un parlu classique de maison d'arrêt où tu as juste le droit de ramener la bouteille d'eau là, que tu as acheté. Et du coup, c'était un tout petit peu plus. Et maintenant, ça a été supprimé sous prétexte sanitaire, quoi. Par contre, dans le métro à Paris, on continue nos bicraves, je ne sais combien de conneries, hyper rush. Et là-dessus, il n'y a pas de problème parce que la RATP, elle a passé un contrat avec Selecta, quoi.
Et il y a à Seyss, il n'y a plus de plexi, plus de masque et autorisation de contact, mais à la place, ils ont foutu des grandes tables. Voilà. Donc, c'est le retour des murets, comme à Fresnes et tout ça. Et donc, pareil, ça va être encore des combats juridiques qu'il va falloir mener. Et par contre, à Muret, reste masque obligatoire et contact physique interdit. On aura, n'hésitez pas à nous envoyer tout plein d'infos là-dessus, parce que nous, ça nous semble vraiment important de montrer qu'en fait ce qui se passe dans chacune des tôles est choisi peut-être de manière arbitraire par chaque directeur d'établissement, mais en réalité ça va tous dans le même sens tout le temps, et c'est ce qu'on a pu constater pendant tout pendant ces deux ans de Covid, quoi.
Et ben on va passer vite fait au casse d'aide. Un gros big up au poteau Lien en cours toujours, j'espère que depuis la semaine dernière ça va bien. À Libreflow, on espère que l'hospitalisation, ça va de mieux en mieux et que tu vas pouvoir sortir très rapidement, revoir tes proches, etc. À Kémy, encore merci pour ta lettre qu'on a décidé de lire en deux fois, mais franchement, ça fait toujours plaisir quand tu nous écris. Au poteau de Guadeloupe, on espère que vous commencez à avoir des autorisations de parloir, parce qu'on sait qu'on vous a bien bolos sur les parloirs quand vous étiez là-bas. À l'infâme, on continuera de donner tes nouvelles et ça fait toujours plaisir de t'entendre ou de te lire. Nani, la même, continue à te battre et j'espère que ce sera bientôt le bout. Youssef, profite pareil du fait que ça se passe mieux la tôle en ce moment. Le poteau à Villepinte. Et à Céline à Brest, on pense à Watt et aux deux copines de Caen, la même, et aux copines de Beaumet qui nous écrivent beaucoup cette année. On sait qu'on est relayé sur Radio Galère et donc on vous passe plein de force.
Ouais, et puis un petit coucou aussi à Erwan, probablement aussi à tout. On espère qu'il n'y aura pas trop de répression. On vous rappelle que donc cette émission, elle a été enregistrée il y a une semaine. Donc on connaissait pas les résultats de la présidentielle, mais on s'inquiète de la forte chance qu'il y ait une répression, comme ça a été le cas il y a 5 ans. Et donc force aussi à toutes les gens qui ont très potentiellement été arrêtés et enfermés. Rediffusion mercredi matin 8h.
Tu commences à apprendre.
C'est parti. On s'y fait, deux émissions de suite, ça va. Force, courage et détermination.
Il n'y a pas d'arrangement. Allez, sergent de kiff, cours.